Chapitre 10. Notre héros. Il est plus que temps. Il faut un héros. Tout drame, tout conte, tout poème a besoin de cet être privilégié autour duquel l'action livre bataille. Il est jeune, beau, mystérieux. Il est le point de mire de toutes les haines et de tous les amours. Sans lui, l'œuvre est un corps sans âme. Il est temps plus que temps. On croirait que nous n'avons pas de héros. C'était au quatrième étage de cette maison dont les derrières donnaient par une étroite échappée sur la cour des messageries du plat d'étain. La maison que trois pattes surveillaient pour le compte de monsieur le baron Schwartz. La maison du bon Dieu, au dire de monsieur Rabot, le concierge qui avait l'honneur de compter au nombre de ses administrés. Non seulement ce phénomène de trois pattes, mais encore les petits, dont monsieur Bruno était la sangsue, le fameux monsieur Lecoq, patron de Cocotte et de Picpus, Edmé Lebert avec sa mère, et Chalot avec Similor. L'appartement où logeait notre héros était composé de deux chambres. La première, d'un vieux canapé servant de lit, de deux chaises et d'un guéridon. Sa fenêtre unique s'ouvrait sur une petite terrasse, étroite et couverte de treillages feuillus, œuvre et amour d'un jeune ménage d'ouvriers que le chômage avait exilé de cet humble Éden. Au-dessous de la terrasse était la cour incessamment humide, entourée de trois côtés et demi par les bâtiments, et dont le pavé n'avait qu'au jour du solstice un bref baiser du soleil. La moitié vide du quatrième côté donnait vue sur les messageries du plat d'étain. Cette première chambre appartenait bien à notre héros, mais il n'y avait personne. Ils étaient trois amis, trois bons et braves jeunes gens qui vivaient, Dieu sait comme. Deux habitaient la seconde chambre où nous allons entrer tout à l'heure. Michel, notre héros, le plus important des trois, quoiqu'il eût nom Michel tout court, et que les deux autres appartinssent à des familles de riches bourgeoisies, avait cette pièce pour lui tout seul. Les révélations de Similor à Échalot sur ce logis plein de mystères, où il était question de tuer la femme, nous ont appris que le luxe y manquait. Rien n'annonçait dans la chambre de Michel la présence ou le passage de la femme qu'on voulait tuer. Il y faisait nuit pour le moment. Une lueur oblique, venant par la fenêtre ouverte et partant d'une croisée du quatrième étage, de l'autre côté de la cour, éclairait sur la tapisserie fanée quelques épures géométriques attachées à la muraille par des épingles et mettait en lumière, au passage, des papiers d'études, lavis et dessins linéaires épars sur le guéridon. La fenêtre du logis d'en face était close, mais ses pauvres rideaux de percaline, relevés à droite et à gauche, découvraient un de ces tableaux austères et touchants que le diable boiteux, à l'affût de gaies aventures, surprend bien souvent quand il soulève les toits de Paris, la ville du plaisir. Une femme amaigrie et très pâle, à qui la maladie, bien plus que l'âge, donnait presque l'apparence d'une morte, était demi-couchée sur son lit et travaillait. À chaque instant, elle s'arrêtait, vaincue par une évidente fatigue. Ses yeux éblouis se fermaient à demi, et quiconque guettait ce suprême effort du besoin ou du devoir, la pensée serait venue, la pensée et l'espoir que la lampe allait enfin s'éteindre, en même temps que l'aiguille s'échapperait de ses mains tremblantes. Mais la lampe impitoyable continuait de briller. La main pâle et décharnée se crispait sur son œuvre, et dès que les yeux se rouvraient, l'aiguille allait, allait. Il n'y avait personne avec la malade. Quand ses paupières abaissées reposaient un moment la cruelle lassitude de ses yeux, elle agitait parfois ses lèvres blêmes, mais c'était pour parler à Dieu. Ce Michel, notre héros absent, était un bon garçon d'une vingtaine d'années, taille haute et fine, l'air d'un gentilhomme en vérité. Il lui restait une chance pour être de noblesse, car il ne connaissait ni son père ni sa mère. Les meilleurs esprits, et Michel, notre héros, était un très bon esprit, ont leur faiblesse. surtout quand l'ignorance de leur origine les promène tout naturellement dans le pays des rêves. Sur son vieux canapé lit, Michel refaisait chaque soir le roman de sa propre destinée. Malgré certains souvenirs confus qui démentaient cette féerie, il ne s'endormait jamais sans se voir tout petit enfant dans un berceau bordé de dentelles. Puis venait un homme noir avec le manteau, le fameux manteau qui cache les enfants qu'on enlève. Michel se souvenait presque d'avoir étouffé sous le manteau. Combien sa mère avait pleuré. Et son père, monsieur le comte, il cherchait peut-être depuis le temps. Entre 11 heures et minuit, Michel, vous avez de ces imaginations naïvement ingénieuses que n'eût point désavoué la poésie toute parisienne de Similor. Il lui était arrivé de s'éveiller en sursaut au seuil du château de ses pères. Il riait alors, car il était du siècle, et savait railler sa propre conscience, mais il ne riait pas de bon cœur. Les tristes murailles de sa chambrette, éclairées par un rayon de lune ou par cette lueur qu'envoyait la lampe des voisines, lui sautaient aux yeux comme une condamnation. J'ai dit la lampe des voisines, quoique la vieille malade fût seule en ce moment. Les voisines étaient deux. La malade avait une fille, et ce n'était pas la mère qui veillait d'ordinaire le plus avant dans la nuit. La lampe était pour beaucoup dans les rêves ambitieux de Michel. À 20 ans, ce n'est jamais pour soi-même seulement qu'on dort un blason imaginaire. Par-dessus cette cour étroite et humide, d'une fenêtre à l'autre, des sourires allaient et venaient. Et que de fois Michel avait oublié la marche du temps, passant les heures charmantes à épier le travail ardu de la jeune fille. C'était encore un roman, hélas, un poème plutôt, tout plein de tendresse pure, d'humbles et chères promesses, d'espoir enchanté, de crainte et de remords. Quoi des remords? Déjà des remords à propos de son front de jeune fille que ses cheveux blonds, opulents mais légers, couronnaient comme une gloire. Des remords vis-à-vis de ce regard bleu, profond, candide, où se reflétaient tour à tour les joies et la mélancolie de l'ange. Entendons-nous, les remords étaient à Michel et n'appartenaient qu'à lui. La fière et douce enfant connaissait les larmes, mais son cœur pouvait se révéler sans crainte. Michel n'était pas un ange. Tous ses rêves n'allaient pas à l'amour. Il aimait avec grandeur, car c'était une âme vaillante, un lion de ses alliés parisiens, où tant de petits gibiers trottinent. Mais il avait d'autres passions aussi, d'autres besoins, d'autres destins peut-être. 20 ans, l'âge précis où le bouton de l'adolescence fleurit pour s'appeler jeunesse. Un visage grec aux lignes correctes et fermes, la pâleur des précoces, le regard des lutteurs qui dédaignent leur présente, sûrs qu'ils sont de l'avenir victorieux. Une taille haute, un port noble, et je ne sais quelle suprême éloquence narguant l'injure de la misère. Du charme, un charme exquis pourrait-on dire, arrivant à des douceurs presque féminines, mais se heurtant à de soudaines duretés, comme s'il y avait eu deux âmes sous cette juvénile enveloppe. De la loyauté mêlée à quelques défiances diplomatiques, une chaleur native, une réserve apprise. Toutes ces nuances se croisaient dans notre Michel. Marque double et caractéristique de deux causes, dont la première n'a qu'un nom, nature, mais dont la seconde, suivant les points de vue divers où l'on se place, peut s'appeler la chute ou la conquête. « À quelque chose malheur est bon, dit le proverbe. Serait-il vrai qu'on puisse gagner peu ou beaucoup en tombant ?» Selon l'histoire ancienne, les Amazones se faisaient tailler le sein droit. Les ténors d'Italie se font arracher les notes graves. Les coureurs de profession jettent leurs rats aux chiens. Pourquoi garder ces objets qui gênent? À Paris, à tous les coins de rue, vous trouverez des chirurgiens qui vous couperont le cœur. Michel, notre héros, avait gardé son cœur. Ses amis prétendaient même que c'était un grand cœur. Les chaos de la route l'avaient bien meurtri, ça et là, et la malaria de Paris faisait ce qu'elle pouvait pour mettre la gangrène égoïste dans le vif de ses blessures. Michel se souvenait vaguement, mais vivement, d'avoir été un petit enfant heureux, choyé, gâté, dans une maison tranquille, où son père et sa mère, un beau jeune homme et une douce jeune femme s'aimaient. Où était cette maison, il ne savait. La lui eût-on montrée, il n'eût point su probablement la reconnaître, tant l'image était confuse et l'impression lointaine. Le jeune homme et la jeune femme n'avaient pas pour lui d'autre nom que maman et papa. Il les voyait encore au travers d'un nuage ou d'un rêve. La mère, brodant et souriant. Le père, occupé à un travail manuel que Michel n'aurait pas su définir, mais qui noircissait les doigts et mettait de la sueur au front. À son estime, il pouvait avoir 3 ans quand prit fin brusquement cette période de son existence. Il y eut un jour un grand tumulte dans la maison, des terreurs, du bruit, des larmes. Ceci se passait dans une ville de province, car Michel se souvenait d'une étroite rivière et d'un vieux pont lézardé, bien plus petit que ceux de Paris. Nul chagrin, du reste, point de larmes, car la rue des bonnes figures de sa nourrice souriait près de son berceau. Celle-là, il l'eût reconnue. Elle lui disait « Ils reviendront ». Une femme en deuil vint, en effet. Était-ce sa mère? Une nuit, il eut peur, parce qu'une carriole l'emportait cahotant par les chemins, et il ne revit plus sa nourrice. Tout cela était en lui comme la trace confuse d'un songe. Ses souvenirs plus précis s'éveillaient dans une riche campagne normande. De larges moissons, des prés verts où les bestiaux fainéants se vautraient dans l'herbe humide et haute, une ferme basse d'étage avec une cour énorme où il vit pour la première fois battre le blé, rayant de fête. Ici se présentait pour lui un détail qu'il sentait mieux que nous ne pourrons l'exprimer. Il lui semblait qu'au début de son séjour dans la ferme, car ce fut là qu'il grandit, on le traitait en fils de la maison. Mieux que cela, même, en pensionnaire qui apporte une richesse au logis. Puis, peu à peu, les choses changèrent, et à 8 ans, il se voyait petit domestique de labour, employé sans façon aux plus infimes besognes. En somme, le père Péché et sa femme étaient de braves gens. Le bonhomme racontait, le soir, au coin du feu, ses procès, comme un vieux soldat radote ses campagnes. Et la bonne femme, quand elle avait bu sa chpine de cidre dur, pouvait dormir 3 heures durant sans cesser de tourner son rouet ni de filer sa quenouille.